bienvenue dans Pêle-mêle Rock avec JC sur Radio Alto, évidemment. L'émission d'aujourd'hui pourrait s'intituler « Le temps des festivals » et vient en complément de la dernière qui traitait, entre autres, du sujet. Mais elle pourrait s'appeler également « La fin des utopies », »,« La fin d'un rêve ». Dont on vient d'écouter la version de Crosby, Stills, Nash & Young, n'a pas été joué par ce groupe lors de leur prestation à Woodstock, mais se trouve dans le générique du film éponyme. Pourquoi ? Eh bien, parce que ce morceau n'avait pas encore été écrit. Il est l'œuvre de l'autrice-compositrice-interprète canadienne Joni Mitchell, découverte par David Crosby lui-même en 1967 et qui l'aidera à enregistrer son premier album. Par ailleurs, elle est la compagne de Graham Nash, qu'elle quittera d'ailleurs en 1971. Donc, compte tenu des accointances avec les membres de ce groupe, on ne s'étonnera pas de retrouver ce titre sur l'album de Crosby, Stills, Nash & Young, pardon, l'album déjà vu. Joni Mitchell souhaitait fortement faire partie de ce grand événement qui était ce festival de Woodstock. mais son agent a préféré sécuriser sa présence télévisée au Dick Cavett Show. L'écriture de ce morceau fut donc sa contribution, ou peut-être sa consolation, de n'avoir pu participer à Woodstock. En revanche, elle sera bien présente à l'île de Wight en 70. Parmi les groupes présents de la côte ouest à Woodstock, que j'ai cité rapidement à la fin de ma dernière émission, il y a le Grateful Dead, dont la prestation à Woodstock est gâchée par des problèmes techniques. C'est sans doute pour ça qu'il n'apparaît pas sur le film. En 1967, le Grateful Dead fait partie des groupes majeurs ayant joué dans les concerts du Summer of Love. Le Summer of Love qui a vraisemblablement commencé avec les rassemblements du Golden Gate Park à San Francisco. On écoute tout de suite I'm a King Bee du Grateful Dead. We'll be right back.
Bill. Want you to be my queen. You know, I said I'm a king bee, baby. Want you to be my queen. Yes, I do. Together now we can make a little bit of honey like the world has never seen. Yes, I can. Cause I'm a king bee. I'm fitting a buzz around your sweet little hat. Said I'm a king bee, darling. I wanna buzz around your sweet little hive. Yes, I do. You know now all I want now, darling. Please, 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 let me.
Entendre dans l'ordre I'm a King Bee, du Grateful Dead et Crown of Creation de Jefferson Airplane. Le Dead et l'Airplane sont vraiment les deux locomotives des groupes de San Francisco en cette fin des années 60. et il semble qu'il souhaiterait avoir l'équivalent d'un grand festival semblable à Woodstock sur la côte ouest, un peu en réponse à la côte est où se déroulait Woodstock. Dans le même temps, de l'autre côté de l'Atlantique, en Grande-Bretagne, les Rolling Stones sont au sommet de leur gloire et surfent sur la vague de leur dernier album « Beggar's Banquet », sorti en décembre 68, un de leurs meilleurs albums, si ce n'est le meilleur, mais ça n'engage que moi. Au sommet de leur gloire, mais fauché. Alors, quel rapport entre le Grateful Dead de la côte ouest américaine et les Rolling Stones en Grande-Bretagne ? On y vient tout de suite après ça. Strike Fighting Man. Alors oui, je vous disais, quel rapport entre le Grateful Dead de la côte ouest américaine et les Rolling Stones en Grande-Bretagne ? Et ce, d'autant plus que les Rolling Stones semblent nager à contre-courant de la contre-culture hippie et du Pacific Revolution des Beatles. En 69, donc, les Stones sont fauchés et traversent une passe difficile. Ils sont en période de crise. Ils n'ont pas fait de concert depuis leur tournée européenne en 66 et par ailleurs, ils décident de se séparer de Brian Jones, l'un des fondateurs ou même le fondateur du groupe. Brian Jones qui était leur guitariste, un des deux guitaristes. Ils organisent donc pour le 5 juillet un concert gratuit à Hyde Park afin de présenter leur nouveau guitariste Mick Taylor. Mais Brian Jones est retrouvé mort dans sa piscine le 3 juillet. Le concert de Hyde Park deviendra donc l'hommage des Stones à Brian Jones. Jagger, en tunique blanche, déclamera un poème de Percy Shelley. C'est peut-être c'est peut-être leur pire concert, mais le public est content. L'ambiance est bonne, le service d'ordre est assuré par des Hells Angels tranquilles, voire quasi débonnaires. Peu de temps après, Rex Cully, le manager du Dead, débarque à Londres et passe du bon temps avec Keith Richards, autrement dit, des soirées bien arrosées avec des consommations de substances plutôt illicites. Ils parlent ensemble de business, de projets et se prennent à rêver de concerts gratuits dans le Golden Gate Park. Il en ressort que ce serait bien que les Stones terminent leur tournée américaine prévue pour la fin d'année par un concert gratuit au Golden Gate Park. Rex Cully assure que c'est possible et les Stones, qui comptaient parmi les grands absents de Woodstock, voudraient en quelque sorte prendre leur revanche avec leur propre festival. Le projet se concrétise finalement. Mais la municipalité de San Francisco voit d'un mauvais œil un gros barnum à la Woodstock dans le parc et interdit l'événement. Il faut donc trouver une solution de repli. Ce sera sur le circuit automobile de Sierra Point. On commence les installations, mais là encore, surprise, la société Filmways, qui possède depuis peu le circuit, apprend que l'événement va être filmé et que finalement il ne sera pas aussi gratuit qu'on l'avait annoncé. Alors elle demande une rémunération, pour commencer, de $100,000, ainsi que les droits de distribution de tout film tourné pendant le concert. Jagger refuse catégoriquement. Il y aura des négociations par avocat interposé, mais les Stones resteront inflexibles. Enfin, le 4 décembre, on trouve un circuit de stock-car désaffecté à Altamont. On va finalement monter à la hâte une scène assez sommaire sur cet ancien circuit automobile désaffecté. Le cadre n'est pas terrible, le cadre n'a rien de reluisant. Mais le vendredi 5 décembre, dans l'après-midi, plus de 100 000 spectateurs envahissent le circuit d'Altamont, tandis que des dizaines de milliers d'autres continuent d'affluer, chargés de tentes et de sacs de couchage. Surtout, grave erreur, on fait appel au club de Hells Angels local pour la sécurité. Alors, les Hells Angels locaux sont une bande de bas du casque, mi-mafieux, mi-truands, qui n'ont pas tout à fait compris que c'était un festival de musique et non une démonstration de pouvoir. Ce qui contribue à créer une ambiance délétère. Bref, le concert a lieu le 6 décembre 69. C'est Santana qui ouvre le bal avec Savor. Carlos Santana dira, je cite, « Il y avait de mauvaises vibrations. Les bagarres ont commencé parce que les Hells Angels poussaient les gens. Il n'y avait pourtant aucune provocation. Ce sont les Hells qui ont déclenché la violence. De la scène, j'ai pu voir un mec avec un couteau qui voulait buter quelqu'un. » Fin de citation. Puis c'est au tour de l'Airplane de monter sur scène. Il rencontre également des problèmes. Alors que le groupe termine The Other Side of This Life, le chanteur Marty Berlin veut porter secours à un jeune afro-américain se faisant tabasser par les Hells Angels. Il lance son tambourin et écope d'un coup de queue de billard sur le crâne qui lui fait perdre connaissance. Le groupe décide alors d'arrêter de jouer. Il se retire. Puis suivent les Flying Burrito Brothers, un groupe de country rock de Los Angeles dont le leader Graham Parsons est un ami de Keith Richards, qui eux parviennent à jouer dans une meilleure ambiance quand même. On écoute High Fashion Queen des Flying Burrito Brothers. Très vite après la prestation des Flying Burritos, la panique se répand parmi les autres groupes prévus au programme. Le Grateful Dead, qui a contribué pourtant à l'organisation de l'événement, mais qui sent que la situation est en train de se dégrader, refuse carrément de monter sur scène. Quant à Crosby, Stills, Nash & Young, ils expédient leur set avant de quitter au plus vite les lieux en hélicoptère face au chaos. Alors les Rolling Stones, eux, sont sur le site depuis 14h45. Ils sont pour le moins consternés. Le projet initial de Mick Jagger était de monter sur scène au moment où le soleil se couche. Mais les festivités ont pris du retard. Puis on annonce que les Rolling Stones ne joueront pas avant que tout le monde n'ait évacué la scène. Encore du retard. La tension monte. Les Stones arrivent. L'ambiance est électrique. Mick Jagger lance des appels au calme. Une première bagarre éclate, puis une deuxième et une troisième, qui contraindra d'ailleurs le groupe à arrêter de jouer en plein milieu de Sympathy for the Devil. Puis un quart d'heure plus tard, alors que le groupe interprète Under My Thumb, une quatrième bagarre éclate.
I mean, who's fighting what for? Who's fighting and what for? Why are we fighting? Why are we fighting? We don't want to fight. Come on. Do we want? Who wants to fight? Who is it?
Un spectateur noir âgé de 18 ans, du nom de Meredith Hunter, est poignardé une première fois dans le cou avec un couteau de chasse, sous les yeux de sa petite amie, par un des membres du service d'ordre, entraînant évidemment une montée de violence et un véritable chaos à quelques mètres seulement de la scène où jouent les Rolling Stones.
Okay, here we're gonna. I don't know. What, when we get to really like the end and we all want to go absolutely crazy and like jump on each other, then we'll stand up again. You know what I mean? Everyone, keep that. Sit down. I mean, just keep cool and let's just relax. Let's just get into a groove. Come on, we can get it together. Come on. Sit down.
Under my thumb.
Meredith Hunter est amenée au sol, battue par des Hells Angels, puis encore poignardée. L'autopsie du corps de Meredith Hunter confirme le fait qu'il était sous effet de la méthamphétamine et qu'il a reçu 5 coups de couteau. Inconscient du drame qui vient de se jouer, les Rolling Stones poursuivent leur concert, et jouent encore 8 morceaux. Au lendemain du festival, le bilan est lourd. Outre Meredith Hunter, 3 autres personnes ont trouvé la mort. 2 enfants ont été écrasés dans leur sac de couchage par un conducteur sous acide et une personne s'est noyée dans un canal d'irrigation. Il dit « Je ne parle pas de nombreuses voitures volées, de nombreux bad trips dus à l'acide et de nombreux blessés. Enfin, pour le côté positif, il y eut quand même 4 naissances. » Bref, Altamont, du fait de la violence qu'il a entachée, est souvent cité comme le coup d'arrêt qui annonce la fin du mouvement hippie et de la culture optimiste des années 1960. Pour les Rolling Stones, la pilule est amère et longue à avaler. Ils attendront 3 ans avant de revenir jouer aux États-Unis. D'après Mick Jagger, je cite, « Ça a été horrible, vraiment horrible. Tu te sens responsable. Comment cela a-t-il pu déraper de la sorte ? Le fait horrible que quelqu'un soit tué pendant un concert. Combien c'était triste pour sa famille, mais aussi le comportement flippant des Hells Angels. » Fin de citation. En 1970, un film documentaire du même titre qu'un des meilleurs morceaux des Stones à mon avis, Gimme Shelter, montrera par le menu cet événement tragique qui signe la fin à la fois d'un rêve, d'une utopie, et la fin des 60s. Quant à nous, chers auditeurs, c'est sur ce dernier morceau, Gimme Shelter, que nous allons nous quitter. Bonsoir à tous et à bientôt sur Radio Alto